lions de la SF.
Ouais, les lions de la SF. Les lions de la SF.
Les lions de la SF.
Vaclav courait pour suivre Yannick et Antonin. Un vent frais balayait la poussière des rues, faisant frissonner les feuilles naissantes sur les arbres. Les trois hommes longeaient les immeubles et fuyaient la lumière des réverbères. Une heure auparavant, ils s'étaient retrouvés à la station Flora du métro. Ils ne se connaissaient pas. Ils savaient seulement qu'ils porteraient tous un lapin en chocolat à Pâques approchait. Yannick avait l'air franchement le plus ridicule. Il se demandait comment tenir l'objet et semblait se débattre avec, empêtré dans son allure massive et musculeuse. Antonin n'affichait pas la même gêne, une élégance naturelle lui conférait de l'allure, même avec un lapin couvert de papier multicolore. L'intelligence de son regard avait réconforté Vaclav. Il ne voulait pas que sa vie repose dans les mains de cette brute de Yannick. Une fois réunis, ils avaient jeté leur lapin en chocolat dans la première poubelle venue et s'étaient dirigés vers la voiture d'Antonin. Il s'était garé à plus de 500 mètres de l'objectif. Les sacs pesaient lourds et Vaclav s'était inquiété en voyant Yannick glisser un pistolet dans sa ceinture. « Vous ne m'avez pas dit que le bâtiment était sans risque ?»«
Ça ne signifie pas qu'il est désert, » avait grogné Yannick.
« La sécurité est principalement passive, sauf la nuit. Des gardes y demeurent en faction. Nous les éviterons, mais au cas où... »« Au cas où, oui, seulement pour nous défendre. » En guise de réponse, le mercenaire avait enfilé un bonnet puis refermé le coffre de la voiture. Ils étaient partis immédiatement. En approchant de l'objectif, Vaclav en vint à regretter sa participation. Il était en congé pendant 2 jours et une excursion à Sachata, sa maison de campagne, aurait été plus convenable. Avec l'arrivée du printemps, le travail s'accumulait dans le jardin. Olga adorait s'occuper de l'intérieur et s'ingéniait à redécorer chaque année le salon. Depuis la naissance de leur fils, Pavel, elle se montrait encore plus joyeuse que d'habitude. Elle avait naturellement accepté d'aller seule à leur résidence secondaire. Vaclav lui avait promis de la rejoindre lorsqu'il aurait terminé un petit boulot. Tendre et brave Olga. Une fille toute simple, rencontrée lors d'un reportage à l'hôpital général. Il l'avait remarquée pour son sourire et son caractère joyeux. Il n'avait pas été difficile de la séduire. Ce soir, Vaclav s'en voulait de ne pas être avec elle et de lui avoir menti. Elle n'aurait pas compris. Qui pourrait croire que Vaclav Mantransky, grand reporter de la MT2, se transformait en terroriste la nuit? Qui penserait qu'il appartenait au seul mouvement de résistance contre le pouvoir du commandeur Blaha? L'ancien pouvoir avait été renversé 8 ans plus tôt, mais personne n'était parvenu à chasser l'armée. Ce régime autoritaire aurait une fin. Vaclav et son groupe avaient juré de lutter et de combattre jusqu'à ce que démocratie s'en suive. Ce soir, ils lançaient leur premier coup d'éclat, l'annonce du changement. La préparation avait été longue, minutieuse. Elle se basait sur un fait que toute la population reconnaissait. Les systèmes de sécurité des bâtiments officiels semblaient fragiles. Le commandeur avait une telle confiance dans son autorité et dans sa puissance qu'il avait allégé tous les dispositifs de défense depuis 4 ans. Ce soir, cette confiance serait brisée. Les loups de Prague, Olivier Paquet.
Bonjour, bonjour. Ici Flo toute seule, qui a eu la chance à Épinal en mai dernier de rencontrer enfin un auteur qu'elle aime beaucoup, à savoir Olivier Paquet. Je vais cesser de parler de moi à la troisième personne, cela fait quand même un petit peu bizarre, et je vais vous laisser écouter immédiatement l'interview qu'Olivier m'a accordée. Olivier Paquet, bonjour.
Bonjour.
Je t'ai connu dans un premier temps par de nombreuses nouvelles sorties dans Galaxy,
et puis une dans Asphodel à l'époque. Et je me disais que tu étais vraiment un auteur de nouvelles. Puis tu es passé au roman et on n'a plus de nouvelles. Pour quelle raison ? Tu as arrêté d'en écrire ?
Non, je continue toujours d'en écrire. Je viens même d'en terminer une il y a une dizaine de jours. Donc je continue toujours d'en écrire. Mais moi, j'ai écrit des nouvelles principalement dans Galaxy et sous la direction principalement de Jean-Claude Duniac. Et c'est une forme de travail qui a été assez luxueuse, c'est-à-dire je pouvais proposer ce que je voulais et puis il y a une sorte d'habitude de travail qui m'a bien plu. Après, il ne s'est pas trouvé que les anthologies... alors soit il y avait des anthologies fermées où on ne faisait pas appel à moi, ou des anthologies... Moi, je suis vraiment un pur auteur de science-fiction. Donc quand il y a des anthologies de fantasy, de fantastique ou ça, moi je n'en écris pas. La seule nouvelle de fantasy que j'ai écrite, c'est Les Chevaux de Lune. Je ne pense pas a priori que je vais en écrire d'autres. Donc vraiment, j'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai aussi des nouvelles peut-être de fantastique. On m'a dit, mais toi, tu écris du fantastique comme tu écrirais de la science-fiction. Donc bon, ça limite énormément. Sinon, non, moi, j'adore toujours écrire des nouvelles. Je continue toujours d'en écrire. Et en principe, on est en train de s'organiser ça pour faire un recueil qui comporterait à la fois une réédition de certaines nouvelles parues dans Galaxy et au moins trois inédits. Donc les nouvelles, ça reste toujours une activité que je continue et que j'aime toujours. C'est autre chose, c'est vraiment, en plus, c'est des thématiques que je n'utilise pas dans mes romans. Donc.
Un recueil de nouvelles d'Olivier Paquet ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi pas maintenant ? Mais Olivier est également un écrivain de romans. Comment est-il passé de l'un à l'autre ? Voilà ce qu'il va nous expliquer.
C'est une remarque que m'avaient fait plusieurs personnes, je crois Joël Vintraver par exemple, qui me dit « Oui, tu écris des romans, mais en même temps, chaque chapitre, c'est des nouvelles. » Donc il y a un mélange, à la fois une construction de romans, en même temps, j'utilise les techniques de la nouvelle. C'est à la fois des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire j'utilise ce qui est formidable dans une nouvelle, c'est que comme c'est un format court, on ne peut pas tout expliquer. Donc il faut sélectionner, il faut arriver à faire des synthèses, à éliminer plein de choses et que le lecteur reconstitue. Après, je raconte toujours des histoires, donc après, que ce soit dans les nouvelles ou dans les romans, donc, je ne fais pas des nouvelles étendues. Il y a le problème souvent des nouvellistes qui ont des problèmes de passage au roman, c'est qu'en fait ils font une nouvelle qu'ils étendent. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes romans, souvent, les chapitres ont des titres.
Et au point de vue, façon de travailler, tu as complètement changé de manière ou justement, comme tu fais des chapitres qui sont des sortes de nouvelles, tu as finalement conservé la même façon, le même rythme de travail?
Je fais partie des écrivains qui travaillent sans plan. Bon, même si je réfléchis beaucoup auparavant, hein, c'est pas la question, mais je n'écris pas de plan auparavant. Mais je raisonne donc par séquence. Donc j'ai une séquence qui va faire 3-5 pages, donc j'imagine ça. Donc je raisonne par petit bout. Et c'est la même technique que j'utilise pour les nouvelles. Le roman, c'est en fait une surmultiplication de séquences. Ce qui fait que c'est la même technique que je peux employer de l'un à l'autre. Alors parfois, je me fais peur, mais aussi c'est le plaisir de la découverte. Ce qu'on doit faire dans un roman et un peu moins dans une nouvelle, c'est les passages de transition. Il y a des choses où on doit calmer le jeu, poser des éléments. Et moi, en tant qu'auteur de nouvelles, bon, ça m'ennuie un peu, ce genre de passage. Et en fait, c'est à la fois quelque chose que je déteste, et en fait, maintenant, c'est quelque chose que j'attends. Parce que je sais que mon cerveau, à force, pour lutter contre l'ennui, va découvrir des trucs et va trouver des choses qui vont rendre ça excitant, et donc je sais que je vais trouver des choses intéressantes. Donc ce genre de ça qui est spécifique au roman.
Je vais être désagréable. Nous avons attendu longtemps entre tes deux romans. C'est parce que tu es très pris par ailleurs et que tu manques de temps ?
Alors absolument pas. J'ai fini donc Les Loups de Prague, pour dire exactement. Le premier jet était terminé en 2003. C'est-à-dire à la sortie de Structura Maxima. Mais il est arrivé que Jacques Chambon, mon éditeur chez Flammarion, est mort à la sortie du roman. Et qu'ensuite, la succession s'est pas super bien passée. C'est même pas d'ailleurs, j'ai même pas essuyé un refus, c'est juste que l'éditeur a clos la collection. Et ensuite, trouver un autre éditeur, ça a posé problème. Plus le fait que les éditeurs à qui j'ai soumis ont fait des temps de lecture longs. J'ai un éditeur à qui j'ai soumis, j'ai appris que 3 ans plus tard, il était encore en lecture. Bref, du coup, j'ai mis ça de côté parce que je me suis dit, c'est pas la peine que je focalise dessus. Donc, je me suis mis à écrire autre chose. Et en fait, ce roman, Les Loups de Prague, on le doit quasi entièrement, à part à mon éditrice, Mireille Rivalant, je l'ai talent, mais on le doit essentiellement à Xavier Mauméjean. Si à chaque fois que je le vois, je le remercie parce que, en fait, c'est au Salon du Livre de l'année dernière. Où il me pose la même question, mais qu'est-ce que tu deviens, t'écris rien? Je dis, je lui explique toute l'histoire. Et à ce moment-là, il me dit, alors que je sais qu'il est très occupé par ailleurs, il dit, envoie-le-moi. Je l'ai envoyé, parce que comme il s'occupe d'une collection jeunesse, il dit, Et il m'a dit, je ne peux pas te le prendre pour une collection jeunesse, mais soumets-le à la Talente, c'est ton roman est magnifique, ça doit aller pour la Talente. Donc j'ai soumis à la Talente en début juillet, vers le 15-20 juillet, de téléphone de Mireille Rivalant, et puis en 2-3 semaines c'était fait. Donc, quand on voit les autres éditeurs où ça mettait des mois et des mois, et tout d'un coup paf, tout ça, c'est ce qui s'est arrivé comme ça. Mais donc j'ai pas renoncé sur ce roman, mais je l'avais mis de côté.
Oui, toujours le problème d'envoyer à l'éditeur qui va coller, quoi.
Et en plus, je trouve que c'est très bien ce qu'elle m'avait... En plus, la réaction de Xavier de dire « envoie-le-moi » parce que pour mon premier roman, je l'avais écrit depuis un certain bout de temps, mais je cherchais l'éditeur, mais sans l'envoyer. Simplement parce que comme je commençais avec les nouvelles à être dans le milieu, à avoir facilement des contacts avec les éditeurs, donc à écouter ce qu'ils disaient, à me dire « est-ce que j'aimerais être édité par un tel ?» Et tout d'un coup, à un déjeuner, je rencontre Jacques Chambon, on discute littérature et tout. Et lui, comme ça, il a eu ce réflexe de me dire à un moment, qu'est-ce que tu fais? J'écris un roman. Et il m'a dit aussi, envoie-le-moi. Et cette simplicité comme ça, envoie-le-moi, ce simple lien humain a fait que... Puis ça a marché parce que 15 jours après, il m'a appelé pour donner rendez-vous. Donc ça s'est passé très vite. Donc quand ça marche bien, ça va très très vite.
Je vais être à nouveau désagréable. Est-ce que tu as un roman sur le feu?
J'ai un roman sur le feu. Alors là, c'est un gros machin, puisque j'en suis actuellement à 1 700 000 signes. C'est du space opéra. Ça va être compliqué d'expliquer parce que... En fait, si. C'est un roman qui étudie une société interstellaire sur 30 ans, au moment où on découvre la communication instantanée. Et en découvrant l'ensible, pour les amateurs de SF, le concept, ça va détruire les fondements de cette civilisation humaine. Et comment arriver à surmonter cette catastrophe, parce que ça change tous les concepts et ça provoque des guerres, c'est simplement, cette communication instantanée. Donc c'est là-dessus. Donc il y a du boulot, mais le roman est terminé. Ça va se décider assez vite.
Parlons des Loups de Prague. J'ai vu que tu avais passé une thèse sur la Tchécoslovaquie. C'est vraiment en rapport?
Tout simplement, j'ai vécu à Prague. J'ai vécu à Prague pour y travailler, pour des recherches. Donc vraiment, ce qui n'est pas être à Prague en touriste. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et donc, en vivant là-dedans, j'ai vraiment compris à la fois ce qu'il y avait d'angoissant et de prédateur dans la ville, parce que c'est une ville très ancienne avec des rues très étroites et elle fait une atmosphère quand tombe le soir qui est assez angoissante. Et à un moment, j'avais lu donc une phrase de Kafka où il décrivait Prague et il disait la Matichka, c'est le terme tchèque pour dire la petite mère, a des griffes. Et c'est là que j'ai commencé à penser les loups de Prague. C'est à la fois les griffes, donc les loups. Et en même temps, la Matichka, c'est quelque chose de féminin. Et je me suis pensé, effectivement, si la ville était un organisme vivant ou même un humain. Et comment... c'est facile de faire la métaphore de la ville humaine et de se dire, je vais la concrétiser. Et ensuite, l'autre aspect, c'est de voir donc les griffes, c'est les loups. et je me suis intéressé à créer une sorte de guilde du crime qui divisait en clans animaux. Alors par exemple, les assassins ce sont les serpents, la prostitution ce sont les lions et les voleurs ce sont les loups. Et donc c'est comme ça qu'ils se définissent, ils font une guilde comme ça. Et je me suis demandé, bon, voilà, ils ont ce totem des loups et ils sont organisés comme une meute. Et il y a à la fois une raison aussi à ça, parce qu'il y a une logique de comportement de ces loups. Ils sont obligés de constituer une société à part. Oui. Ils ne peuvent pas être intégrés dans le reste de la société. Donc ils sont isolés et c'est cet aspect de meute, de cohésion. Et aussi comment assurer la domination, ce genre de choses qui sont la structuration d'une meute. Et de voir comment, en fait, on ne sait plus très bien. On a à la fois une ville qui est humaine et on a des humains qui sont des animaux, qui sont à la fois qui ont des armures qui sont plutôt électroniques et donc qui deviennent plus vraiment humains. On a une sorte de double intrigue finalement entre cette ville humaine et ces animaux. C'est en fait même les humains généralement qui deviennent quasiment des éléments, des globules, donc qui perdent leur identité, qui sont très froids, alors que la ville est beaucoup plus vivante que ses habitants. Et donc le contraste des deux qui m'intéresse. Tous les loups ont des implants qui leur donnent leur capacité. Donc une meute est constituée essentiellement d'un couple alpha qui réduit en fait la population. Et donc la femelle alpha possède un implant qui lui donne la possibilité d'avoir des enfants. Toutes les autres femmes ne peuvent pas l'avoir. La domination est assurée par l'enfantement, la maternité. Et on a le personnage, donc la femelle qui s'appelle Plume. C'est quelqu'un qui ne veut pas être dans ce processus-là. Elle ne veut pas être dans cette imposition d'un modèle de couple alpha et elle n'enfante pas. Donc c'est aussi une tension chez les femmes parce que pourquoi donner à elles cet implant qui est un pouvoir? Et ça aussi, ça m'intéressait de voir comment... En fait, c'est le parcours pour Plume pour redevenir humaine finalement, pour sortir de cette domination qui lui est imposée.
Et ton autre personnage principal?
C'est Miroslav. Ouais. J'ai voulu le construire à la fois comme un monstre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a comme capacité une sorte d'empathie parfaite. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il croise quelqu'un pour le comprendre absolument. Donc c'est une capacité en fait monstrueuse, parce que son interlocuteur ne peut rien lui cacher. Et en même temps, c'est quelqu'un finalement d'assez faible, puisque comment établir une relation avec quelqu'un d'autre si on n'a rien à découvrir? Et finalement, la seule personne avec qui il peut entretenir une relation, c'est sa fille qui a une maladie orpheline, qui est censée être morte et qui se retrouve dans la ville. Et c'est la seule, et donc c'est ce qui la rattache Miro au genre humain, finalement c'est ça. La meute l'intéresse moins que la relation avec sa fille.
Oui.
Et en même temps, ça déséquilibre totalement la meute.
Oui, donc on a un couple alpha qui
est en crise. Et la crise se reporte sur toute la meute.
Je sais pas pourquoi, j'avais fait un blocage sur Jinro.
Ouais, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que... alors je ne pourrais plus faire la chronologie, mais c'est vrai que j'avais été marqué donc le film d'animation Jinro, parce que, là, surtout sur la fin, c'est que...
Pour, le même loup sans... de Bear ne meurt un loup.
Oui, c'est ça. C'est que la meute s'impose même au fait d'être humain.
Ouais.
Et c'est le moteur dans les loups de Prague. C'est justement, on est avant tout quelqu'un de la meute avant d'être humain.
Ouais.
Et c'est pour ça finalement qu'il y a le tout dernier chapitre des loups de Prague, c'est pour montrer qu'on peut quand même être humain. Finalement, à l'avant-dernier chapitre, bon, c'est la meute qui gagne de manière absolue. Donc il y a quand même un dernier chapitre pour dire que l'humanité a une place quand même.
Ben voilà, si après cela vous n'avez pas envie de lire les loups de Prague, je ne peux rien faire de plus. Vous devrez également vous pencher sur Structura Maxima, le premier roman d'Olivier Paquet, dans lequel également le décor joue un rôle important. C'est une immense structure métallique faite de poutrelles et dont l'énergie est assurée par de la vapeur issue de l'utilisation du magma terrestre. C'est vraiment un décor très fort, très prégnant dans le roman.
D'autant que deux factions, les poutrelliers et les vapeuriers, vont s'affronter. Un très bon roman que je vous conseille. Et donc, nous attendons le recueil de nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous attendons également ce fameux space opéra. Parce que, soit dit entre nous, un space opéra dans lequel la découverte de l'ancible va remettre en question la structure d'une société écrit par quelqu'un qui a fait Sciences Po, ça peut être hyper intéressant. Et vu la manière dont Olivier Paquet énonce ses enjeux et les traite, je sens que cela va être hyper intéressant. Et je lui dis, j'espère qu'il m'écoute, j'espère qu'il m'entend, Olivier, s'il te plaît, on est pressé. En tout cas, moi, je le suis. Voilà, voilà. Il me reste plus qu'une chose à faire, à savoir virer Octarine du clavier de l'ordinateur pour pouvoir faire mon montage et mettre en ligne ce podcast. Je vais encore un petit peu parler pour vous dire à bientôt, que cette année encore, je me rendrai à Nantes pour les Utopiales qui vont se dérouler du 9 au 13 novembre, enfin j'y arriverai le 10, que je me réjouis déjà de rencontrer plein de monde génial, que j'ai déjà des projets d'interview en tête, et que les Lions de l'ASS, ben c'est pas fini. Ce donc, au revoir. Ainsi que vous le savez, vous pouvez m'écrire, et ne vous en privez pas, à lyonnes@gmail.com. Vous pouvez vous rendre sur le site internet tout nouveau, tout beau des Lyons qui est à www.lesliondelasf.com. Et n'oubliez pas, lisez beaucoup.